foi et turbulence.
C'est Christine Gossette au microphone. Foi et turbulence est aujourd'hui produite par le Collège universitaire dominicain. C'est grand la mort, c'est plein de vie dedans, disait Félix Leclerc. Alors pourquoi on en a un peu peur et pourquoi on l'appréhende parfois comme si elle était une ennemie? Aujourd'hui, Didier Canapil, un dominicain du Collège universitaire dominicain, vient nous entretenir de cette question difficile qu'est la mort et de l'euthanasie aussi. Professeur de théologie morale et de bioéthique, Didier Canapil fait partie de comités d'éthique clinique et d'éthique de la recherche dans divers hôpitaux de la région de l'Outaouais et de Québec. Il s'intéresse aux questions bioéthiques qui concernent la fin de vie et la psychiatrie. Nous avons rencontré notre invité à l'Institut pastoral ici à Montréal. Nous lui avons demandé ce qui l'avait amené à s'attarder à un sujet aussi délicat que la mort.
Au départ, c'est un petit peu peut-être le hasard, parce que j'ai commencé à regarder cette question-là quand j'ai commencé mes études de maîtrise en bioéthique dans le domaine de la théologie au début des années 2000, et on m'a proposé un sujet qui, à ce moment-là, était un sujet assez chaud dans les milieux de soins palliatifs, qui était la sédation en fin de vie, donc le fait d'endormir un patient en fin de vie si jamais il souffrait trop, ou comme une approche pour pouvoir éventuellement, lorsque tout le reste avait un petit peu échoué, de pouvoir recourir à ça. Donc il y avait beaucoup d'enjeux éthiques. Alors c'est le sujet qui m'a fort intéressé.
Vous dites qu'on a, dans nos sociétés, évacué la mort, et vous avez bien raison. Il semble que la mort, qu'on ait un certain malaise face à la mort. Nous n'osons plus en parler, nous la nions parfois, même nous la cachons. Alors, pourquoi pensez-vous?
Une des raisons, c'est que la mort a été reculée. Donc, de moins en moins, on est familier avec la mort. Il peut facilement arriver dans des familles qu'on ait trois générations pendant lesquelles on ne va pas connaître de mort familière. Autrefois, la mort était beaucoup plus familière parce qu'on mourait plus jeune. Donc, les enfants eux-mêmes étaient d'ailleurs soit côtoyaient la mort, soit eux-mêmes étaient éventuellement victimes. Donc, la mort était beaucoup plus présente. La deuxième chose, c'est que la mort a été non seulement éloignée dans le temps, mais elle a été éloignée un petit peu dans l'espace, puisque autrefois on mourait à la maison, alors qu'aujourd'hui on a une tendance, étant donné la médicalisation de la fin de vie, à mourir dans un lieu, que ce soit l'hôpital, que ce soit un centre de longue durée. Donc il y a eu une institutionnalisation du lieu de la mort qui également a fait perdre une certaine familiarité. Alors ce qui est lié à des yeux dans le temps et dans l'espace devient finalement un petit peu plus loin du cœur, et on a eu tendance de plus en plus à avoir une difficulté plus grande du point de vue émotionnel à gérer la mort. Et donc ça explique que dans la vie de tous les jours, la mort a été évacuée, mais elle a ressurgi un petit peu comme un espèce de tabou. Et on arrive à des paradoxes où aujourd'hui dans notre société, alors qu'on est moins familier avec la mort, alors qu'on est plus dépourvu pour faire face à des morts qui sont celles éventuellement des proches, en même temps on voit que la mort est exposée, mise en scène, que ce soit à la télévision, oui, que ce soit partout un petit peu, on a cette mort qui est présente. Donc c'est une autre manière un petit peu de la gérer, mais de la gérer encore là, encore une fois, à distance. Alors, on est dans une société qui, avec tous ces indices, nous montre un petit peu que la mort est tombée dans le registre du déni, dans le registre du tabou. Et on peut le voir également, non seulement pour le phénomène du mourir, mais il n'a qu'à voir, par exemple, aussi le phénomène du deuil, qui est de plus en plus estompé, qui est de plus en plus raccourci, pour comme si, d'une certaine façon, la vie normale était la vie qui se passait de la mort. Alors là, je crois que là, on a un indice, peut-être, qu'il y a un certain malaise.
Mais quelles seraient les attitudes, pensez-vous, les plus inspirantes à adopter face à ce phénomène qui semble tout innaturel, qui est la mort?
Ben, peut-être l'attitude la plus saine ou la plus qui serait à privilégier, ce serait probablement de réintégrer justement la mort et le mourir à l'intérieur de la vie. Et d'une certaine façon, ce qu'on voit comme étant l'événement qui signe le glas, qui signe l'échec de la vie, de le voir davantage comme quelque chose qui, éventuellement, est intégré à la vie et plus encore donne sens à la vie. C'est parce qu'on est mortel, d'une certaine façon, c'est parce qu'il y a une finitude l'être humain va chercher à donner du sens à sa vie. Donc, la première chose, justement, c'est de ne pas évacuer la mort et de la réintégrer, particulièrement d'un point de vue symbolique. Un des choses que l'on voit aujourd'hui, c'est que de plus en plus, on a estompé non seulement les rites autour du mourir, mais particulièrement tout ce qui est les rites du deuil, de la gestion de l'absence. On a, d'une certaine façon, évacué tout le rituel qu'on avait autrefois et qui, eux, donnaient, d'une certaine façon, du sens, donnaient la capacité de nommer ce qui se vit là. Or, aujourd'hui, ce que, dans notre société, on a principalement perdu, je pense, c'est cette capacité du langage et des gestes, la capacité symbolique de faire sens avec quelque chose qui est de l'ordre de l'innommable, qui est de l'ordre de l'insensé, puisqu'il s'agit d'une certaine façon du terme de la vie. Mais on a donc évacué tout cet espace symbolique et on l'a remplacé par un espace dans lequel on essaye d'agir principalement sur la mort et ne pouvant plus agir, on essaye tout simplement, d'une certaine façon, de l'évacuer. Alors voilà, je pense, la première chose qui est à faire, c'est peut-être de réintégrer cette dimension mortelle, cette dimension de finitude de la vie humaine, et de la réintégrer dans un ordre symbolique.
Réintégrer ces rites qui donnent du sens à cette réalité qu'on appelle la mort. Mais j'imagine aussi, tout en saluant quand même les progrès de la médecine qui nous permettent quand même de vivre plus vieux.
Tout à fait. Il ne s'agit pas du tout de remettre en question les avancées médicales, bien au contraire, parce que la médecine permet justement de contribuer au bien-être, contribuer à l'amélioration de la qualité de la vie humaine. En même temps, la médecine n'est pas la réponse unique ou la seule réponse qu'on peut avoir justement aux grands enjeux ou aux grandes questions qui touchent la vie humaine. La médecine donne une certaine capacité, un certain pouvoir pour pouvoir en particulier jouer sur la qualité de la vie, sur l'allongement de la vie, mais en même temps la médecine elle-même ne peut pas donner sens à la vie humaine. Il s'agit là de questions qui vont dépasser ce que la médecine est capable de faire. Donc, d'une certaine façon, c'est la grande question, c'est de pouvoir réintégrer la capacité que l'on a d'agir et de bien agir pour pouvoir soigner, pour pouvoir prolonger la vie, pour pouvoir guérir de maladies, pour pouvoir approcher avec sérénité le moment de la mort, de le réintégrer à l'intérieur même d'une approche plus globale de la personne, en reconnaissant aussi cette finitude.
Mais alors, quelle est la manière de le faire?
Une des manières de le faire, c'est d'une certaine façon de réintégrer ce qu'on avait autrefois, c'est-à-dire de vivre cet événement-là, non pas comme quelque chose qui se vit en solitaire ou quelque chose qui relève tout simplement d'un registre décisionnel, mais de le vivre dans une certaine solidarité. Oui. C'est à travers la relation aux autres, à travers le tissu communautaire, à travers la manière dont je vis cet événement-là avec les autres, que on peut véritablement en faire un événement qui va pouvoir aussi rejaillir sur donner un sens et une qualité à la vie. Et voilà ce que l'on faisait d'une certaine façon autrefois, quand cet événement-là était beaucoup plus vécu de manière communautaire et non pas de manière privatisée ou privée telle qu'elle est aujourd'hui, où on essaye finalement de quasiment dissimuler. Alors voilà, donc peut-être ce qui nous manque aujourd'hui, c'est véritablement de réintégrer notre approche de la mort, à la fois dans le registre du symbole, qui nous permet de le penser, de le nommer, et à l'intérieur également d'un tissu de relations qui fait que on va pouvoir approcher cette réalité-là qui touche à tout l'humain et qui a son propre tragique, puisqu'il s'agit quand même de quelque chose qui met un terme à la vie et qui signifie une absence.
Je vous rappelle que je suis en compagnie du dominicain Didier Canepil. Il est professeur de théologie morale et de bioéthique au Collège universitaire dominicain à Ottawa. La question de l'euthanasie a refait récemment surface dans l'actualité, notamment lors du projet de loi déposé au printemps pour encadrer l'ensemble des pratiques en fin de vie, en introduisant l'aide à mourir, une commission qu'on a appelée « Mourir dans la dignité ». Mais d'abord, Didier, que doit-on entendre par le mot « euthanasie » ?
L'euthanasie, c'est l'acte dans lequel on va délibérément et intentionnellement provoquer la mort à la demande de quelqu'un pour soulager ses souffrances. Il y a quelque chose dans lequel l'intention véritablement dans l'euthanasie, c'est de provoquer la mort pour pouvoir soulager la personne à sa demande. L'euthanasie, d'une certaine façon, doit être distingué d'un certain nombre d'autres pratiques qu'on a en fin de vie ou d'autres décisions qu'on a en fin de vie, d'autres situations qui sont, par exemple, des arrêts de traitement, qui sont éventuellement l'utilisation de médicaments pour soulager, mais qui pourraient hâter la mort, l'utilisation éventuellement de la sédation terminale ou de la sédation palliative, qui est le fait d'endormir quelqu'un en fin de vie. On a là d'abord, du point de vue sémantique et du point de vue des différentes pratiques, quelque chose à séparer. Longtemps, on a joué sur un petit peu une assimilation de l'euthanasie à différentes pratiques. Autrement dit, le fait d'arrêter des traitements, arrêter par exemple un ventilateur qui soutient les fonctions cardio-respiratoires, serait de l'euthanasie.
Et qu'entend-on par acharnement thérapeutique ?
L'acharnement thérapeutique, d'une certaine façon, n'est pas toujours facile à déterminer parce qu'on entre dans l'acharnement thérapeutique lorsqu'on entre dans une obstination déraisonnable à maintenir en vie, on pourrait dire biologiquement, une personne sans tenir compte de l'ensemble de l'état de la personne et ses capacités aussi. Donc, renoncer à un acharnement thérapeutique, par exemple, à un moment donné, en arrêtant des soins ou en ne faisant pas, en n'initiant pas de nouveaux soins, on n'est pas dans le registre ici de l'euthanasie. On est tout simplement dans le refus de mettre en œuvre une pratique, une technique qui ne ferait que donner une survie précaire ou momentanée du biologique au détriment probablement même de la personne dans sa globalité.
Oui, et qui fait qu'on pourrait trouver que la qualité de vie de la personne était plutôt à désirer à ce moment-là.
Oui, ou en ne faisant pas justement une bonne évaluation de ce qu'est la qualité de vie, en ramenant finalement le maintien en vie à une espèce de préoccupation uniquement vitaliste ou biologique par rapport au maintien des fonctions corporelles. Donc, d'une certaine façon, on pourrait dire que L'acharnement thérapeutique est à l'opposé du spectre de l'euthanasie. Mais là où les deux se rejoignent, c'est dans la logique qui les anime. C'est-à-dire, il y a quand même un lien assez direct entre le fait de vouloir prolonger la vie à tout prix, oui, qui est de l'ordre d'une logique de la maîtrise, de l'ordre d'une logique de pouvoir faire quelque chose tant qu'on est capable de faire pour allonger la vie. Puis à un moment donné, la dernière maîtrise qu'on a lorsqu'on ne peut plus allonger la vie, c'est d'y mettre un terme. Oui. Donc, dans le fait de hâter la mort par rapport à un geste délibéré de provoquer la mort, on est encore dans une logique de maîtrise. On est dans la maîtrise même du moment de la mort. Entre ces deux pôles, il y a, je pense, une certaine ligne de crête, pas toujours facile à tracer, dans laquelle, à l'inverse, au lieu de prolonger la vie à tout prix et de s'obstiner d'une certaine façon à la prolonger et au lieu de la provoquer, il y a ce qu'on appelle, ce qui pourrait être de l'ordre de consentir à la mort. Je pense qu'aujourd'hui, on doit réapprendre à travers notre capacité et notre pouvoir qu'on nous donne la médecine à cette attitude fondamentale de l'être humain qui est de consentir à la mort. Et consentir à la mort, c'est de deux choses. C'est d'une part consentir symboliquement, on pourrait dire, à la mortalité, à oui, se reconnaître mortel. Mmh. Il y a là une question de fond, on revient à ce que nous disions au début. Mais il y a aussi comment est-ce que je vais intégrer la capacité que j'ai d'un point de vue médical à ce consentement par rapport à la mortalité dans les cas bien précis des personnes qui sont en fin de vie. Et dans cette zone, dans cette crête sur laquelle on marche par rapport aux décisions de fin de vie, c'est là que véritablement il y a un discernement à pouvoir faire pour ne pas tomber dans le registre ni de l'acharnement, ni de l'euthanasie. Et c'est là qu'on peut inventer et créer toute une série de soins qui vont aller dans, véritablement, le respect de la personne dans son état, que ce soit justement par l'utilisation des analgésiques pour soulager la douleur, que ce soit des renonciations à certains traitements qui se deviendraient futiles, inutiles, que ce soit d'arrêter à un moment donné des traitements ou de diminuer des traitements qui n'apporterait plus un bénéfice, on pourrait dire, raisonnable d'amélioration ou qui ferait peser une charge de plus en plus forte sur la personne. Il y a là quelque chose qui se joue, je pense, dans le cas par cas et qui va se jouer aussi pas simplement sur le registre technique. Il ne s'agit pas simplement de prendre une décision, mais il s'agit, pour pouvoir justement prendre une décision, être capable d'entrer en relation avec la personne qui est en fin de vie avec cette personne qui est dans la dernière étape de sa vie. C'est là que le registre relationnel et le registre de l'accompagnement, à mon avis, est tout à fait essentiel pour pouvoir situer les bonnes décisions.
Nous sommes à l'Institut pastoral des Dominicains où nous recevons le dominicain et éthicien Didier Canepil. Il y a quelques années, il me semble qu'on parlait du caractère sacré de la vie pour s'opposer à l'euthanasie. Aujourd'hui, ne parle-t-on pas plutôt et surtout d'autonomie ou du droit à mourir dans la dignité pour appuyer l'euthanasie?
On est dans toute une série, en fait, d'expressions ou de principes qui ont des contenus assez variables. Mm. Et c'est ça un petit peu le problème. On utilise souvent ces questions de caractère sacré de la vie, d'autonomie, de dignité, de mourir dans la dignité, quasiment comme un petit peu des slogans ou des principes qui pourraient guider notre action. Mais ce sont des principes dans lesquels on peut mettre toute une série de contenus différents. Et on arrive à opposer des choses qui, dans le fond, peuvent très bien se concilier. Je prends l'exemple du caractère sacré de la vie, qui était effectivement quelque chose important, en particulier dans un contexte judéo-chrétien, puisqu'on parlait d'une vie qui est sacrée. Tout dépend, évidemment, de ce qu'on entend derrière le mot sacré ou derrière le mot vie. Si derrière le mot sacré, on entend quelque chose de tabou, quelque chose d'intouchable, et si derrière le mot vie, je réduis la vie à la vie biologique, et que donc, mettant en mots ensemble ces deux mots-là, je finis par donner à l'expression caractère sacré de la vie quelque chose comme une vie biologique, taboue, intouchable, donc il faudrait tout faire pour maintenir en vie. Ce serait une espèce de vitalisme. Ça, et à mon avis, c'est une voie qui n'a pas d'issue. On est véritablement à ce moment-là dans de l'acharnement thérapeutique. Si derrière le mot sacré, on met quelque chose, une signification de quelque chose qui est important, quelque chose qui est fondamental, y compris d'un point de vue religieux. Quelque chose est sacré, oui. C'est principalement parce que c'est saint. Le sacré, c'est principalement de l'ordre de la sainteté, c'est-à-dire de la relation à Dieu, quelque chose qui a une valeur fondamentale parce que la vie est un don. Et que je mets derrière la vie, non pas la vie biologique, mais la vie de la personne, eh bien là, on a tout à coup une autre compréhension de ce terme-là. Et on va pouvoir utiliser cette expression-là pour pouvoir véritablement, non pas simplement avoir un slogan pour maintenir la vie à tout prix et renoncer et combattre, entre guillemets, une revendication à l'euthanasie, mais tout simplement quelqu'un principe qui va nous permettre de continuellement penser l'ajustement des soins et des décisions en fonction d'une promotion de la vie qui est une valeur fondamentale, mais de la vie comprise dans toutes ses dimensions, vie personnelle, de la vie personnelle, c'est-à-dire la vie biologique, mais psychologique, spirituelle, sociale, etc.
J'imagine que c'est la même chose pour la qualité de la vie.
On a souvent réduit la notion de qualité de vie à une vie qui vaut la peine ou non d'être vécue.
Oui, une vie qui est productive.
Oui, d'une certaine façon, et notre société facilement peut glisser dans ce regard-là parce qu'on est dans une société qui est marquée principalement par l'efficacité, la rentabilité. Et donc, de ce point de vue-là, le qualificatif « qualité de vie » peut facilement être utilisé comme une espèce de qualificatif absolu pour dire « ma vie vaut la peine d'être vécue, cette vie-là vaut la peine d'être vécue » ou « ma vie vaut la peine d'être vécue » ou « elle ne vaut plus la peine d'être vécue ». Il y a comme passer un seuil. L'autre possibilité de voir la qualité de vie, c'est véritablement de non pas se poser la question si une vie vaut ou non la peine d'être vécue, mais de voir véritablement dans le concret de cette vie-là, qu'est-ce qui peut amener, soutenir une plus grande qualité, un plus grand bien-être dans la vie, et d'ajuster d'une certaine façon l'action qu'on a par rapport à promouvoir une qualité de vie. Donc, de ce point de vue-là, on doit être un petit peu, je pense, prudent quand on manie ces expressions-là qui, d'une certaine façon, deviennent facilement un petit peu des slogans.
Être authentiquement soi-même, disait saint Augustin, c'est être radicalement tourné vers l'autre. Pour Didier Canepil, même si l'autonomie est essentielle, elle n'est pas coupée de l'autre.
On revendique beaucoup l'autonomie. D'ailleurs, c'est une des dimensions fondamentales d'une société de droit et très axée sur les droits individuels comme on a dans les sociétés occidentales. Et l'autonomie se comprend souvent ou se réduit souvent à une autodétermination, c'est-à-dire notre capacité de nous déterminer, notre capacité de décider pour nous-mêmes,
par soi-même,
pour soi-même, de ce qu'on souhaite, ou non. Mais l'autonomie, ce qu'on doit voir d'une certaine façon, c'est le fait que l'autonomie n'est jamais quelque chose qui se replie tout simplement sur un individu. Mm-hmm. L'autonomie n'est pas de l'autarcie. C'est pas le fait d'être simplement une île. L'autonomie est toujours quelque chose qui va être relié à d'autres. On vit de manière reliée, on arrive au monde de manière reliée, on gagne, on pourrait dire, notre autonomie dans la relation à l'autre, on conserve notre autonomie dans la relation à l'autre. Donc, dans la fin de vie, c'est encore plus vital, d'une certaine façon, d'exercer cette autonomie à travers le lien, à travers la relation que j'ai à l'autre. Et on pourrait dire, d'une certaine façon, que la revendication d'autonomie devient vite vide et devient quasiment violente si elle n'est pas inscrite dans quelque chose dans lequel mutuellement nous allons soutenir notre autonomie ou certains diront cultiver mutuellement l'autonomie de l'un et de l'autre. Mm-hmm. Et je crois que c'est là qu'on doit pouvoir réapprendre, particulièrement dans les lieux de fragilité que sont la maladie, que sont la souffrance, que sont la fin de vie, de pouvoir non pas revendiquer de manière, on pourrait dire, de manière isolée, une autonomie, mais bien au contraire, de pouvoir chercher à soutenir l'autonomie même de celui pour lequel elle est fragilisée, pour lequel elle est mise à mal par la maladie, par la peur, par l'approche de la mort, par tout ce qui est... Et le grand paradoxe de notre société, c'est, d'ailleurs, par rapport à la revendication sur un droit à mourir, un droit à l'euthanasie, c'est pas tant la peur de la douleur qui est derrière ça, parce que aujourd'hui, de façon, la médecine, on peut, dans la plupart des cas, bien contrôler la douleur, mais c'est toute une autre série de peurs, dont une des peurs qu'on entend souvent, c'est la peur de dépendre.
Oui,
la peur
et donc,
de la dépendance.
Et donc, ça met à mal ce qu'on appelle la dignité de l'être humain.
Oui, ben ça met à mal, en tout cas, une certaine compréhension de la dignité. Encore là, on comprend souvent la dignité comme étant, on réduit la dignité au sentiment que je peux avoir de ma propre dignité, de se sentir ou non digne. Et c'est là que le mot dignité peut être un peu piégé, parce que, d'une certaine façon, on peut voir de plusieurs manières cette dignité, mais ce qui est important, c'est de voir que derrière le mot dignité, il y a quelque chose d'inhérent. On est digne pas parce qu'on... On a une dignité non pas par ce qu'on fait, mais tout simplement par ce qu'on est. Et d'une certaine façon, tout être humain a cette dignité inhérente et fondamentale. Maintenant, la question...
Et donc, ce n'est pas parce que quelqu'un est alité, n'a pas une vie tout à fait productive, qu'il n'est pas digne
exactement.
D'être là.
La dignité n'est
elle
pas...
Dépasse
elle dépasse. Oui. Elle est attachée à tout simplement le fait d'être humain, le fait de chaque être humain a cette dignité propre, qui peut avoir plusieurs fondements. Certains mettront la raison, certains mettront, d'un point de vue religieux, le fait d'être enfant de Dieu, le fait d'être créé. Il y a plusieurs moyens de fonder la dignité. Mais c'est reconnaître une valeur fondamentale à la personne telle qu'elle est, et non pas par rapport à ce qu'elle fait ou par rapport au handicap qu'elle porte. Maintenant, une fois qu'on a défini cette dignité un petit peu inhérente, il faut pouvoir aussi utiliser ce concept-là pour qu'il devienne opératoire. C'est-à-dire, on peut dire à quelqu'un qu'il a toute sa dignité, encore faut-il prouver ou faut-il manifester le respect de cette dignité-là. Et c'est là qu'il y a un pôle très objectif à la dignité, qui est qu'est-ce que je mets en œuvre pour pouvoir soutenir la dignité, pour pouvoir respecter la dignité de l'autre.
Là, vous êtes du côté de celui qui accompagne, qui s'en va vers la mort.
Oui, et tout comme l'autonomie, je pense que fondamentalement, la dignité est quelque chose qui est relationnel, qui est soutenu, exprimé, à travers une relation. Et que ce qui joue souvent, d'ailleurs, dans les débats de fin de vie ou dans les personnes qui revendiquent un droit à mourir, c'est ce sentiment que la maladie, que la déchéance, une certaine déchéance, qu'une perte de capacité provoque une indignité, ou un sentiment de perte de dignité.
Alors que pour vous, ce n'est pas le cas du tout.
Le sentiment peut être réel,
peut
être réellement ressenti, mais la question, c'est qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça?
Oui.
Et qu'est-ce qu'on fait pour attester que à la personne que finalement, cette dignité-là, sa dignité fondamentale n'est pas atteinte. Mm-hmm. Donc, c'est là que dignité fondamentale, dignité objective, la manière dont je respecte la dignité, sentiment de la dignité ou dignité subjective, ces trois pôles-là sont à maintenir ensemble. Et la seule manière de les maintenir ensemble, c'est, je pense, à travers, encore une fois, la relation, l'accompagnement des personnes, le soutien des personnes fragiles, fragilisées, dans une relation à l'autre. Et c'est là que ces termes-là, ces concepts-là, peuvent trouver véritablement leur sens pour pouvoir ajuster le type de soins, le type d'approche que l'on a par rapport à ces personnes qui sont au seuil de la mort.
Selon vous, quel impact pourrait avoir une législation de l'euthanasie sur le développement des soins palliatifs?
C'est difficile à dire parce que certains vont promouvoir la possibilité d'avoir les deux, d'une coexistence des deux, d'avoir d'ailleurs même l'euthanasie comme étant une pratique de plus dans l'arsenal. Je doute un petit peu de cette coexistence, on pourrait dire, pacifique et logique entre les soins palliatifs qui forment essentiellement un accompagnement et un soulagement, une efficacité médicale dans le soulagement à l'intérieur même d'un accompagnement, mm-hmm. et par ailleurs une logique de pouvoir recourir à la mort sur demande ou de provoquer la mort. Une des choses qu'on voyait quand même dans le débat qui a eu lieu au Québec avec cette commission Mourir dans la dignité, c'est que du côté des soins palliatifs, les intervenants des soins palliatifs sont plutôt majoritaires, voire unanimes par rapport à une certaine méfiance par rapport à recourir à une légalisation de l'euthanasie. Donc il y a là quelque chose quand même qui est important d'apprendre en ligne de compte. Il y a des voix là qui sont importantes, des gens qui côtoient la mort, qui côtoient les mourants, qui approchent cette réalité de la mort quotidiennement avec les mourants et qui, dans une grande proportion, voient une incompatibilité entre les soins palliatifs et la mort provoquée ou le droit à une mort provoquée. Donc, c'est difficile de dire quel serait l'impact. Je n'aime pas jouer dans les scénarios de peur ou de crainte ou de pente glissante, mais il reste pas moins que, et c'est ça qui m'intéresse pour la réflexion, c'est de se dire qu'il y a là quand même des logiques qui sont incompatibles dans la manière même où les soins palliatifs, par rapport à ce qu'on parlait au début, c'est-à-dire à cette réintégration de la mort, ce réapprivoisonnement de la solitude à l'intérieur même des soins, à l'intérieur même d'une approche en fin de vie. L'idée derrière ce consentement à la mortalité, ce double consentement à la fois de l'être humain dans sa finitude et dans notre capacité de maîtrise par rapport à la mort, les soins palliatifs s'inscrivent dans ce registre-là, c'est leur philosophie même. Je vois mal la compatibilité avec une logique qui va vers une plus grande maîtrise, justement, technique par rapport à la mort.
Félix Leclerc disait « C'est grand la mort, c'est plein de vie dedans ». Alors, Didier Canepil, qu'est-ce qui est vital dans la mort?
Ce qui est vital dans la mort, c'est peut-être justement, d'abord et avant tout, de ne pas l'évacuer, de la reconnaître comme étant non pas simplement un terme à la vie, mais véritablement quelque chose qui est l'horizon, la finalité de la vie. Et la manière dont on va approcher ou intégrer, comme je le soulignais au départ, la mort dans notre manière de vivre, que ce soit la notre propre mort, la mort des autres, que ce soit peut-être aussi toutes les petites morts qui nous marquent, toutes les séparations, tous les deuils que l'on fait dans notre propre vie, c'est dans la manière dont on va assumer, apprivoiser ou réapprivoiser la mort qu'on va y découvrir un lieu de vitalité. Et il suffit de se mettre à l'écoute des personnes qui accompagnent ou des personnes qui sont mourantes pour découvrir que, pas nécessairement toujours, mais dans bien des cas, on peut faire de la fin de vie véritablement un lieu de vitalité et de fécondité.
Mmh. Et vous dites que, justement, que la proximité de la mort renvoie à la question du sens à la vie.
Oui. Parce que d'une certaine façon, comme je disais au départ, c'est parce qu'on est mortel d'une certaine façon qu'on va se poser la question du sens de la vie. Si on était dès le départ immortel, d'une certaine question, la question du sens ne se poserait pas. D'ailleurs, quand on parle de sens, il faut comprendre que derrière le sens, on a toute une série de choses. On pense souvent de manière très rationnelle au sens comme étant de l'ordre de la signification. Hein, on est très cartésien,
oui,
donc
oui,
on
oui.
veut tout de suite donner une signification aux événements. Alors que le mot « sens » revêt d'autres acceptations qui sont, ça signifie aussi, ça nous renvoie aussi à la notion d'une direction. Alors toute la vie, de la naissance à la mort, est un grand mouvement, une grande direction. Et c'est le terme, d'une certaine façon, la mort, qui va donner ce mouvement-là. Donc le sens de la vie est tenu par ce déroulement de la vie. On oublie parfois aussi que le mot sens renvoie aux notions de sensation et que une manière dont on appréhende la vie, c'est d'abord et avant tout à travers nos sens, à travers un espèce de corps à corps avec la vie, avec le vécu, avec quelque chose qui nous transporte, qui nous fait vivre. Et donc, d'une certaine façon, la mort, tout comme on appréhende la vie, on devrait réintégrer ces dimensions que sont les sensations, que sont la notion de direction, la notion de quelque chose qui nous porte, quelque chose qui nous soutient, quelque chose qui est de l'ordre un petit peu du récit. Voilà pourquoi, par exemple, dans les soins palliatifs ou dans la manière dont on approche les personnes mourantes, l'importance de stimuler ou l'importance de pouvoir rejoindre les sens de la personne.
Oui, donc quand vous parlez des sens, vous parlez vraiment
des sensations, par exemple, du toucher,
de
l'odorat, de l'écoute,
oui.
qui permet d'une certaine façon d'éveiller à la vie ou de soutenir, de maintenir dans l'ordre de la vie.
Donc ne pas avoir peur de s'approcher de celui qui va mourir,
de lui parler, de le toucher, de le tenir.
Vous dites aussi qu'approcher la mort, c'est approcher le spirituel.
Oui, la mort ou le mourir est une question éminemment spirituelle. Là-dedans, il va falloir, évidemment, si on parle de spirituel, de définir ce qu'on entend par spiritualité. Mais la mort touche à des dimensions très intimes de la personne, à l'intériorité même de la personne. Elle touche à la question du sens. Elle touche à la question, éventuellement, de la manière dont je vais me relier à moi-même, mais également aux autres, peut-être à une certaine transcendance, à quelque chose qui m'échappe, à un certain au-delà. Donc, oui, on est dans une question éminemment spirituelle.
Oui, et quand vous dites spirituel, là, si je vous comprends bien, vous ne réduisez pas spiritualité à un appel à la transcendance.
Non, mais il y a quelque chose dans la mort qui se joue de l'ordre du mystère ou de quelque chose qui nous échappe. on pourrait, certains le relieront à une transcendance, et cette transcendance, pour certains, c'est Dieu, quelque chose qui est de l'ordre d'une personne. Mais il reste que pour, je pense, tous, la question de la mort amène un petit peu la question de la transcendance.
Oui.
Donc elle nous renvoie à la fois à notre immanence, à notre intériorité, à ce qui nous constitue même intérieurement, mais elle nous renvoie aussi à quelque chose qui nous ouvre
à
l'autre, qui nous dépasse, qui est de l'ordre d'un mystère. Et donc le spirituel, c'est cette dynamique, cette double dynamique d'un rapport à soi et d'un rapport à l'autre ou au tout autre. Et la mort nous place éminemment, je pense, d'un petit peu dans la dialectique de ce rapport-là. Et au cœur de cette dialectique-là, la question du sens. Donc pour moi, le spirituel est vraiment non pas de l'ordre de simplement une dimension, mais de l'ordre d'une dynamique fondamentale. Et l'état de fragilité, l'état d'incertitude, l'état d'approche de la mort, de la finitude, nous met en contact beaucoup plus vif avec cette dynamique-là ou l'expression de cette dynamique-là, qu'on peut avoir tendance aussi à mettre de côté ou à enfuir sous notre recherche d'efficacité, notre recherche de faire lorsqu'on a les capacités pleines de pouvoir agir. Alors que lorsqu'on rentre dans un mode de plus grande passivité, c'est là qu'on est peut-être plus en contact avec cette dynamique spirituelle. Et donc l'importance dans l'accompagnement, dans la fin de vie, d'être à l'écoute pour pouvoir soutenir cette expression de cette dynamique-là chez la personne qui va mourir.
À la question « qu'est-ce qui est essentiel pour ceux qui vont mourir ?» Est-ce qu'il y a, d'après vous, Didier, une réponse universelle?
Oui et non. C'est-à-dire, il n'y a pas de réponse universelle, mais il y a certainement, et on le voit avec la notion de spiritualité, qui est quelque chose de partagé par tous, mm-hmm. et qui peut prendre différentes expressions ou différents contenus lorsqu'on le relie, par exemple, à une religion qui vient donner un contenu à cette dynamique-là. Il y a quand même quelque chose que l'on partage avec tous. Le fait même de mourir, déjà universel, est une chose. Évidemment, chacun va approcher la mort de manière personnelle, individuelle, la manière dont on aura côtoyé la mort de manière avant de notre propre mort va influencer fortement notre manière de mourir aussi. Donc c'est un événement éminemment individuel, personnel, mais en même temps, on est dans une condition humaine, une finitude partagée par tous. Donc, il y a quand même quelque chose, je pense, et la question du sens, la question de la transcendance, certains rapports à la transcendance, un rapport à l'au-delà, au l'au-delà de la mort. Je ne parle pas simplement d'un au-delà religieux, mais de ce qu'on conçoit comme étant l'après-mort. Tout ça, il y a quand même quelque chose, au moins dans l'interrogation, mm-hmm. Qui est universel.
Oui, tout à l'heure, vous disiez que quand on prononce le mot « mourir », on fait appel au mot « sens », et vous avez bien développé. Vous dites aussi on doit faire appel au mot « temps » quand on prononce le mot « mourir ». Pourquoi?
Oui. Ben, en fait, c'est principalement repenser le temps du mourir. L'expression « fin de vie » peut nous renvoyer à deux choses. Soit elle nous renvoie tout simplement au terme, à la fin, soit elle nous renvoie à une période, la fin de vie. Et je pense que ce qui va être important, et ce qui a été redécouvert, en particulier dans les soins palliatifs, c'est de faire du temps de fin de vie un temps qui peut être fécond. Pas simplement le voir comme un temps de l'improductivité, un temps de l'inefficacité, un simple temps d'attente, un simple temps chronométrique, on pourrait dire, sur lequel on va simplement attendre la mort et à ce moment-là faire de la fin de vie une espèce d'antichambre de la mort, mais de redécouvrir qu'il y a d'autres manières d'habiter le temps, de pas simplement l'occuper, le subir, mais de pouvoir l'habiter. Et la manière dont on habite principalement le temps, c'est la manière dont on va nous se relier aux autres et la manière dont on va éventuellement pouvoir donner une consistance au récit, au temps à travers le récit. Je prends l'exemple que j'utilise souvent dans mes cours. Certains connaissent probablement le petit livre Oscar et la Dame Rose
d'Éric
Emmanuel Schmitt. On a là un exemple par rapport à ce petit garçon qui va mourir. Il lui reste 12 jours à vivre. Par l'accompagnement que va lui procurer Mamie Rose, cette dame qui accompagne les enfants et qui va développer une relation toute personnelle avec Oscar et une grande inventivité dans la manière de mettre en œuvre l'accompagnement, elle va réussir à faire quelque chose d'extraordinaire, c'est de transformer ce temps qui reste, ces 12 jours, un espèce de temps de survie, en un temps de vie, à travers le récit, en peuplant ce temps-là de toute une série d'événements à travers l'imagination, à travers la réalité, qui va faire qu'on va passer d'un temps chronométrique, celui de l'aiguille de la montre, implacable, vers un temps habité, un temps chronologique, celui des événements. Et donc, on va avoir, à ce moment-là, elle va donner, par l'accompagnement, une texture à ce temps de fin de vie.
Oui, et à ce moment-là, on peut parler de qualité de vie.
On peut, oui, parce que la qualité de vie va être principalement donnée par la qualité du temps de vie ou du temps qui nous reste à vivre Et encore là, ce qui va jouer sur cette qualité-là va se jouer principalement à travers la relation et la capacité que je vais avoir de soutenir la personne à l'intérieur même d'une relation.
Si je comprends bien, il serait heureux pour vous de repenser notre rapport à la mort plutôt que d'essayer de la vaincre à tout prix.
Oui, parce que d'abord, à ce jeu d'essayer de la vaincre, on va perdre. La mort ne peut pas être vaincue puisqu'elle est une réalité même de l'existence humaine. On peut la retarder, on peut la maîtriser dans son retard, on peut la maîtriser dans son avance, mais la meilleure manière justement de l'approcher, c'est peut-être dans l'ordre non pas de la maîtrise, mais d'une certaine démaîtrise à un certain moment donné. Il faut rentrer dans ce que je parlais tout à l'heure de ce consentement, et c'est là qu'on ouvre tout un chapitre pour l'inventivité, la créativité, pour pouvoir entrer dans ce consentement-là et faire de ce lieu de la mort un lieu de vie.
Pour un chrétien, quelles seraient les qualités ou les attitudes à mettre en œuvre pour mener un travail de discernement face à ce phénomène de la mort?
La première chose, je pense que pour un chrétien ou pour quelqu'un qui croit, d'une certaine façon, il y a un certain nombre de ressources qui vont nous permettre de penser la mort, d'abord de ne pas la voir simplement comme un événement terminal, final, mais véritablement comme la voir comme un lieu de passage. Donc, à partir du moment, et c'est le propre d'ailleurs de toutes les grandes religions monothéistes en particulier, c'est de pouvoir ouvrir la mort sur un au-delà, sur un autre espace. Mmh. Évidemment, l'approche de la mort devrait être différente. Ça ne la rend pas nécessairement plus facile, mais il y a quelque chose de l'ordre d'une construction symbolique et d'une manière de l'apprivoiser qui va pouvoir être mis en œuvre. Donc, d'un point de vue chrétien, je pense que ce soit par rapport à la croyance dans l'au-delà, que ce soit par tous les rites que l'on a également pour la fin de vie, pour accompagner la mort, pour accompagner le deuil, on a là toute une ressource pour pouvoir véritablement approcher la mort et l'approcher dans ce que j'appelle, à la suite de Xavier Thévenot, un moraliste, les quatre grandes attitude que l'on a lorsqu'on approche des questions essentielles, lorsqu'on approche un certain discernement pour le chrétien. Il s'agit d'inscrire ce discernement-là et ce discernement éthique à travers quatre attitudes: prier, aimer, écouter, réfléchir. Et souvent, encore là, on est très cartésien, on veut réfléchir et discerner simplement en réfléchissant de manière rationnelle, alors qu'on oublie parfois qu'il y a quelque chose aussi qui est de l'ordre d'une peut-être une plus grande passivité à travers les attitudes d'écouter, d'aimer et de prier dans lesquelles on doit pouvoir inscrire aussi notre discernement et nos décisions.
Et ce qui me frappe, c'est que dans ces quatre mots, prier, aimer, écouter, réfléchir, eh ben, j'y vois là toujours cette invitation à entrer en relation avec l'autre, dans prier évidemment, dans aimer, oui, écouter encore. C'est difficile de réfléchir seul.
Effectivement, voilà. c'est peut-être le secret d'un bon discernement. Et d'un bon travail de discernement, c'est effectivement de pouvoir toujours réintégrer de l'autre dans ce travail-là.
Oui. Montaigne disait « Qui apprend à mourir, apprend à vivre ». C'est vrai d'après vous?
Oui, c'est vrai. Je pense que toute la réflexion qu'on a faite aujourd'hui nous amène un petit peu à voir que il y a un dicton populaire qui disait « on meurt comme on a vécu
».
D'une certaine façon, il y a un certain prolongement et la manière dont j'appréhende la mort dit quelque chose aussi de la manière dont j'appréhende la vie. Mais d'une certaine façon, si on arrive à réapprivoiser comme société et individuellement la mort, on risque d'une certaine façon de pouvoir redonner aussi une plus grande saveur à la question de la vie aussi. Alors je pense que les deux sont liés, puisque la mort n'est pas simplement l'opposé de la vie, mais la mort vient d'une certaine façon entrer en relation, en dialectique avec la vie, et comme on le disait, elle rejaillit aussi sur le sens de la vie. Donc la manière dont je vais apprivoiser la mort va pouvoir véritablement aussi me permettre d'apprivoiser la vie et de donner véritablement une saveur et non pas simplement un savoir à la manière de vivre, donc de redécouvrir peut-être aussi un art de vivre à travers l'art de mourir.
Mm-hmm. Ben écoutez, Didier Canepil, je tiens à vous remercier de jeter un éclairage tout à fait humain, singulier, hein, sur ce phénomène-là de la mort, qui un éclairage qui nous donne beaucoup d'espérance. Alors, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie beaucoup.
Je vous rappelle que cette émission Foi et Turbulence est produite par le Centre culturel chrétien de Montréal, le Centre étudiant Benoît Lacroix et le Collège universitaire dominicain, avec le soutien financier de la Fondation canadienne de la vidéo religieuse. Je veux remercier bien chaleureusement mon invité Didier Canepil, dominicain et professeur au Collège universitaire dominicain. Merci à Justine Chevary-Cossette à la technique et à François-Julien Côté-Remy au choix musical. C'est Christine Cossette au microphone. Je vous souhaite une belle fin de journée. Au revoir.